Denis Oliveto, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Heureuse de vous avoir avec nous en studio.
Ben, pareillement.
Deuxième participation en tant que chroniqueur assez bon pour la santé. Denis, aujourd'hui, on parle de visualisation. On est dans le cadre aussi d'événements sportifs, de préparation. Avec Manon Charron, on parlait de préparation des filles sportives pour les jeunes qui vivent en situation de handicap. Ben, la visualisation, c'est une façon de se préparer, que ce soit pour des athlètes de haut niveau, autant des athlètes de la relève.
Oui, en fait, il y a deux éléments à considérer pour atteindre n'importe quel type de performance optimale. Il y a l'action physique, c'est-à-dire l'entraînement ou la pratique physique de l'activité, et l'entraînement mental, donc l'imagerie mentale ou la visualisation. Et c'est cette combinaison qui offre le maximum de résultats. Et là, il faut définir la visualisation.
Oui.
Alors, les termes visualisation et imagerie mentale sont synonymes. Donc, on peut utiliser les deux termes. Et on parle de quoi? On parle de l'acte d'imaginer à la première personne divers scénarios avec le plus de sous-modalités possibles dans le but d'atteindre une performance. D'accord? Quand on parle de sous-modalités, on parle de différents sens. Donc, on y reviendra avec des exemples tantôt.
Oui. Est-ce que pour faire de la visualisation, de l'imagerie mentale, Niels, il faut absolument qu'il y ait eu une répétition physique au préalable?
Non, parce que là on le sépare. Là, on part vraiment d'un entraînement mental. Et là, c'est important de le définir au niveau scientifique, d'un point de vue des neurosciences. Lorsque nous fermons les yeux et que nous visualisions un objet, l'air du cortex visuel primaire s'allume, comme si que nous étions réellement en train de voir cet objet. Et des recherches avec l'utilisation du EMG en électromyographe, avec des skieurs de haut niveau qui étaient branchés alors qu'ils s'imaginaient en action, ont également démontré que le simple fait de penser, de s'imaginer en train d'effectuer une action, envoie un courant électrique partant des neurones moteurs vers les muscles en lien avec ces actions. Et il en est de même avec les recherches en électroencéphalographe qui démontrent que l'activité électrique produite par le cerveau est identique selon que nous pensions à faire quelque chose ou que nous l'exécutions vraiment.
OK. Mais je reviens à ma question précédente. Pour s'imaginer, par exemple, faire une descente en ski ou encore pour une compétition en para-athlétisme, est-ce qu'il faut l'avoir fait de façon physique si on veut pouvoir se l'imaginer de façon vraiment réaliste en imagerie mentale ou en visualisation?
Ça aide.
OK.
Oui, ça aide. C'est certain que lorsqu'on a une compréhension de base du mouvement, on peut démarrer avec un entraînement de visualisation, ça va de soi.
Okay. Mais pas nécessairement, c'est ce que j'entends, c'est ce que je retiens.
Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un entraînement supplémentaire qui se rajoute à l'entraînement physique.
Oui.
C'est ça qu'il faut retenir.
Donc, ça se complète bien, ces deux formes d'entraînement.
Ce qui arrive, c'est que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est imaginé et la réalité.
Oui.
D'accord? C'est d'ailleurs ce qui arrive lorsqu'on regarde un film, on regarde une comédie, on peut rire aux éclats, on peut voir un film d'horreur, on peut réagir en criant, mais logiquement, ce qui arrive, c'est qu'on regarde des images sur un écran avec du son, mais notre cerveau réagit en partie comme si c'était vrai, créant des émotions et relâchant les hormones dans notre corps.
Oui. Ça peut convenir à qui, la visualisation?
Tout le monde.
Et voilà.
Et ça, c'est le mot-clé, mais vraiment tout le monde. J'utilise souvent le terme performance, mais pour moi, la performance, c'est quoi? C'est vouloir obtenir un résultat X.
Oui.
Et que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau haute performance athlétique, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit une animatrice derrière le micro qui veut performer dans son travail.
Pour ces jeunes ou des filles sportifs aussi.
Exactement, on en a parlé tantôt et ça peut être très applicable avec eux autres, bien sûr.
Oui. Est-ce que l'imagerie mentale, bon, là, on a parlé de performance ou de résultats optimaux, pourrait servir dans d'autres cas? Je parle ici, par exemple, à la gestion du stress. Est-ce que ça pourrait aider?
Ah, c'est absolument. Mm. Absolument. Parce qu'il y a plusieurs éléments en visualisation. Hein. Il y a, entre autres, le contrôle de la respiration qui se doit d'être fait comme première étape. Et la beauté de la visualisation, c'est que on crée un scénario et le scénario que l'on veut. Si moi, je désire, en tant qu'athlète, visualiser une phase spécifique où je veux contrôler mon stress, eh bien, en le visualisant, je peux avoir un contrôle de mon corps.
Oui.
OK? Donc, mais là, on rentre un peu plus loin, là. Parce que la visualisation,
c'est vaste, et ça sert à beaucoup de choses.
On pourrait en parler pendant des heures, mais ça peut aller beaucoup plus loin aussi.
Oui.
On peut rentrer en auto-hypnose, on peut rentrer en entraînement autogène. Donc, là-dessus, c'est une forme très avancée de visualisation, d'imagerie mentale. Donc, là, c'est dans la même famille, mais on pousse beaucoup plus loin.
Vous parliez de l'application ou d'utiliser plutôt l'imagerie mentale pour la guérison. Ça consiste à quoi, ça?
Ben, écoutez, prenons l'exemple de quelqu'un qui a eu un accident assez grave et qui se retrouve en, en chaise roulante et qui se doit de...
Qui est blessé. Quoi.
Qui est blessé, ouais. Mais qui est assez solidement. Mais là-dedans, il y a deux aspects, selon cet exemple-là, qu'il faut considérer. Il y a la performance mobile au quotidien de cet homme en fauteuil roulant qui se doit d'effectuer, c'est-à-dire les déplacements, la nouvelle adaptation à son environnement, sortir du fauteuil pour s'asseoir, se laver, se déplacer, y revenir, et ainsi de suite. Et il y a l'entraînement thérapeutique vers un objectif de guérison, donc réadaptation et physiothérapie. Donc, dans ces deux cas-là, la visualisation peut s'appliquer. Avec l'exemple pour un homme en fauteuil roulant désirant atteindre le but ultime de pouvoir remarcher, on peut cibler la chose avec les modalités suivantes. Donc, on rentre un peu plus en détail. Une visualisation très précise de tous les mouvements, musculation, étirement, stimulation, qu'il pratique en physiothérapie dans le but d'optimiser les séances de réadaptation. Okay. Donc, on parle d'une performance dans sa phase de guérison. Et de ça, on peut rajouter une visualisation qui, encore une fois, est très précise dans le but ultime de performer dans l'éventualité qui va remarcher un jour. Posture parfaite, mouvement du corps, et ainsi de suite. Et là, on y va vraiment de la tête aux pieds. Il faut être très, très détaillé en visualisation. Ça, c'est important, ça. Chaque muscle, chaque mouvement, le lever, ouais. le genou qui se plie, le talon qui se dépose au sol, ça,
donc,
c'est au niveau physique.
Donc, d'une grande précision. Il faudrait le faire combien de fois semaine?
Ah! 10 fois par jour, à tous les jours. Là-dessus, il faut le faire souvent, comme n'importe quel entraînement. Et au début, c'est quelque chose qui est très fatigant. Hein? Dire à quelqu'un, reste concentré et pense à tes trucs il y a un effort physique à rester relâché, tranquille.
Oui, parce que les idées, les images fusent sans cesse. Il faut contrôler aussi le flux d'idées de la liste d'épicerie, aller reconduire l'enfant à la garderie.
Il faut vraiment cibler, être très concentré, faire le vide, se concentrer là-dessus. Mais dans ces mouvements, dans cette visualisation de mouvement, se rattache également de la visualisation en termes de sensations, en termes des sens. Donc... je reprends mon exemple de ce monsieur qui veut remarcher. Il devrait rajouter à ça des éléments qui mettent un peu d'épaisseur hein, sur le plat hein, pour rehausser. Donc, le toucher, la sensation des pieds au contact du sol pendant la marche, son, se remémorer le bruit des feuilles mortes lorsqu'on marche dessus pendant une promenade en automne. C'est l'odorat, l'utilisation de la mémoire olfactive qui est, soit dit en passant, la plus développée. Et donc, c'est tout ça qui s'y rajoute avec le sentiment de bonheur et qui devrait être attaché à cette performance-là.
Toujours bien intéressant. Comme vous dites, Niels, on aurait pu en parler probablement pendant une journée complète. On a plus de temps, mais vous en faites au quotidien de la visualisation.
J'en fais très souvent, oui.
Donc, peut-être une prochaine fois, faire une visualisation guidée. Ça serait chouette, ça. Ça serait assez intéressant.
Et ça serait même une étape de plus qui se rajouterait à... Voilà. Exactement, oui. Bien
merci,
sûr.
Niels Oliveto. Toujours un plaisir de vous avoir ici en studio avec nous.
Merci, Marianne.